Je ne sais pas, mais je dirais que lorsqu'une loi n'est pas modifiée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bien faite. C'est une très bonne question, très bon débat, ça. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une loi bien faite ou mal faite? Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne loi, une mauvaise loi?
Oui.
Bon.
Il semblerait qu'elle ait été faite intelligemment.
Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire de son objectif, c'est qu'il ne s'est pas trouvé de groupe de pression suffisamment motivé pour faire modifier cette loi.
Parce que si je me rappelle ce que j'ai appris là-dessus, ça a été discuté, c'était un compromis cette loi, entre les monarchistes de l'époque, enfin la tendance monarchique. Ça a été une bagarre volontaire, au point de vue à l'époque.
Oui, oui, bien sûr.
Il y a eu un compromis, quoi.
Alors, la loi de 1905, sur on parle de la loi de 1905 sur la séparation des États.
Voilà, exactement.
Bon, pour en parler, il faudrait l'avoir sous les yeux. Il faudrait avoir cette loi sous les yeux pour bien en parler. Effectivement, je pense que c'est un cas très intéressant d'étude de la vie d'une loi, de l'existence d'une loi. C'est une loi qui n'a pas été modifiée. Mais, sous réserve de l'avoir sous les yeux, d'en discuter. Ce que je peux en dire comme ça, en première analyse, sans être entré dans le détail de la loi, c'est que c'est une loi qui est suffisamment peu précise pour qu'elle ait fait l'objet d'un certain nombre de dérogations tacites. Parce que les principes, un petit peu les principes qu'on a dans la Déclaration des droits de l'homme, sont pas très très précis, et donc c'est une loi qui a été aménagée sans qu'elle ait été modifiée, sans qu'elle ait fait l'objet d'un amendement précis. On a des lois qui sont amendées, donc elles sont modifiées. Vous voyez, si vous prenez sur Légifrance, vous avez la loi du temps, modifiée par l'amendement du temps, du temps. Bon. Pour la loi de 1905, a priori, sous réserve qu'on ait dit, mais il me semble de mémoire, il ne semble pas qu'elle ait été tellement modifiée.
Oui, parce qu'on en parlait,
il y a des libertés qui ont été prises par rapport à cette loi, et que personne a jugé bon de venir s'en plaindre. Donc ça s'est passé comme ça. Voilà. Oui. Non, mais les parenthèses sont toujours bonnes à ouvrir. Donc, la Constitution, c'est effectivement un catalogue de procédures qui vont nous permettre de bien comprendre comment fonctionne l'État, comment fonctionnent les différents pouvoirs, et puis c'est une clé de voûte de tout le corpus juridique qu'on va voir en dessous, c'est-à-dire que les lois sont toutes a priori lisibles à partir de la Constitution. On peut toujours, en lisant une loi, remonter à la Constitution en disant, cette loi, elle est bien logique, elle est bien en phase avec la Constitution. Donc c'est un petit peu les deux, les deux objectifs de la Constitution. Alors, étant donné ce que nous venons de dire, et en lisant les 16 rubriques la Constitution, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous choquent?
Je pense que l'idée pénale des membres du gouvernement, je ne l'entendais pas ça. Je trouve ça un peu surprenant. Par rapport au reste, ça pourrait être. Je suis surpris que ce soit un chapitre.
Lequel? Le 10?
Responsabilité, ouais.
La responsabilité pénale? Ouais. D'autres observations?
Il y a par exemple les traités, est-ce que c'est fait dans une constitution? Traité, ça doit.
Ah oui.
Ouais. C'est pas une constitution, quoi. C'est...
Bah, il est normal que dans une constitution, on ait une rubrique sur les. Alors, on peut rapprocher le titre 15 de l'Union européenne du titre 6 des traités. Hein. Mmh. Il est normal que dans une constitution, on ait des grandes directives qui soient données sur la façon de travailler que va avoir la diplomatie.
Oui, c'est ça.
Hein?
Ouais,
donc les relations. La Constitution, c'est la relation du peuple français avec son entité étatique, mais c'est aussi la relation du peuple français avec les pays extérieurs. Il faut donc qu'il y ait dans la Constitution des règles de base, des principes. D'ailleurs, des principes qu'on va assez peu trouver dans les annexes des DHC. Charte de l'environnement et préambule qu'on va trouver dans la Constitution, il est tout à fait normal que dans la Constitution, il y ait des directives, des principes qui soient énoncés, des règles qui soient énoncées sur la relation du pays avec la nation, avec les pays extérieurs.
La souveraineté, je pense, c'est les rapports du peuple avec le gouvernement.
Oui, mais je ne sais pas, je suis en train de dire, on n'y était pas.
Parce que le peuple.
Le peuple est un peu absent.
Les citoyens.
Voilà.
Oui,
les citoyens.
Alors, le peuple est absent. Hein.
Ouais,
voilà. Il n'y a pas d'ombrie sur le peuple.
Ouais.
Bon, pas d'ombrie sur le peuple. Alors, il y a une ombrie sur la souveraineté.
Oui,
mais on va voir si. A priori, ça devrait être là-dedans qu'on parle.
Ça devrait être là-dedans qu'on parle.
Voilà. Bon. Là, on brosse des réflexions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Bon, on a dit responsabilité pénale. Est-ce que ça a vraiment sa place dans la Constitution?
Ouais, ça pourrait être dans le gouvernement.
Je pense que oui. Hein. Je pense que. Étant donné que nous sommes dans un système de démocratie représentative, tout est basé sur la représentation, qu'on va avoir une souveraineté qui va être en permanence déléguée à des personnes physiques, et il est important que dans la Constitution, c'est dans la clé de voûte, ce qui ne peut pas être modifiable, ce qu'on a oublié de dire, oui, là je reviens en arrière, ce qu'on a oublié de dire, c'est la différence entre la Constitution et les lois, c'est que les lois, ça se modifie facilement. Alors, ça modifie facilement comment? La loi des lois qui sort de l'Assemblée nationale, il suffit qu'il y ait une majorité qui vote. On voit des fois des lois qui sont votées assez facilement avec très peu de monde. Alors que la Constitution, on la modifie pas si facilement. C'est extrêmement difficile de faire la Constitution. Donc la Constitution, c'est quelque chose a priori. On va dire, pour simplifier, pour caricaturer, c'est quelque chose qui ne change pas. La loi, au contraire, est quelque chose qui change sans arrêt. Hein? Voilà. Donc voilà la différence. Et donc, il est important que dans la Constitution, il y ait un titre spécifique sur la responsabilité des mandataires, des représentants, puisque dans ce système de démocratie représentative où tout le pouvoir et la responsabilité du peuple est déléguée à d'autres personnes, qui est quelque chose sur la responsabilité.
C'est des qui vont pas
non, mais c'est pour savoir, pour vous montrer qu'il vaut mieux qu'elle soit dans la Constitution que dans les codes juridiques. Dans les codes juridiques, si un lobby un peu puissant, à un certain moment, on va atténuer la responsabilité des membres du gouvernement. Alors qu'une fois qu'elle est dans la Constitution, sinon, permanent,
ça pouvait être dans le 3.
Ah ben après, il y a un ordre. Je ne sais pas si sur l'ordre, on va tellement pouvoir chipoter. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 16, ça ne veut pas dire que 16 est moins important que 1. Hein,
D'accord. Non, mais autrement.
Alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans cette structure, c'est que on a dit tout à l'heure à quoi sert une constitution, ça sert à définir les pouvoirs. Les pouvoirs, on parle des pouvoirs. Et là, on ne voit pas les pouvoirs. Où ils sont les pouvoirs? Si, lorsqu'on pose la question, à quoi sert une constitution, si la réponse qui vient en premier, c'est celle que vous avez eue, et c'est celle qu'effectivement tout le monde a et qu'il faut avoir, une constitution est là pour définir le pouvoir, bon, il faut qu'on voit clairement où sont les pouvoirs. Combien il y en a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où sont-ils ?
Le président de la République,
quoi. Oui, oui. Eh oui, président de la République, évidemment. Alors, bon, où sont les pouvoirs ? Alors, si je vous pose la question autrement, je vous dis, on nous parle du pouvoir, quels sont les pouvoirs de l'État ? Il y en a combien ?
On a l'habitude de dire qu'il y en a trois.
Oui.
C'est exécutif.
Exécutif.
Juridique.
Ensuite.
Législatif.
Législatif.
Juridique, non.
Judiciaire. Judiciaire.
Alors là, c'est pareil, c'est pas un, deux, trois par ordre d'importance. Hein. Et le troisième, c'est
judiciaire.
Judiciaire. Bon. Voilà les trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. La DDHC nous a dit un pays qui n'instaure pas la séparation des pouvoirs n'a pas de constitution.
Oui,
je me souviens.
Voilà. Donc, d'une part, la constitution, puisqu'on y est là, la constitution, devrait nous expliciter ces trois pouvoirs, nous dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est et la définition, et puis nous dire qu'ils sont bien séparés. Bon. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que dans la Constitution, nous n'avons pas la définition du pouvoir. Et le pouvoir exécutif, qu'est-ce que c'est ? On n'en sait rien et ça n'est jamais prononcé. Le nom de notion de pouvoir exécutif est absente de la Constitution. Le pouvoir législatif, c'est pareil. Hein ? Et le pouvoir judiciaire, là, on parle de 8
fois. Le judiciaire, il y a.
Le judiciaire, il y a. Le judiciaire, on va nous dire.
L'État.
Alors, on va nous dire ce que c'est que le pouvoir judiciaire. Bon, il y a la haute cour, ça fait partie aussi du pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, le seul pouvoir qui est décrit en tant que tel dans la Constitution, c'est le pouvoir judiciaire. On aurait pu s'attendre à avoir assez rapidement définition du pouvoir exécutif, définition du pouvoir administratif, définition du pouvoir judiciaire. Nous n'avons que définition du pouvoir judiciaire. Pour l'exécutif et l'législatif, il faut qu'on se débrouille en disant il va y avoir. Alors, dans l'exécutif, il y a un peu ça. Il y a un peu ça, il y a un peu ça.
Oui, c'est ça, oui.
Bon, mais c'est nous qui le disons, on nous le dit pas. Hein. On ne nous donne pas, en tout cas, de définition du pouvoir exécutif. L'initiative, ça peut être ça. Et puis, ça peut être ça.
Vous voulez dire que c'est pas expliqué dans les.
La Constitution ne donne pas de définition du pouvoir exécutif. On ne sait pas ce que c'est. La Constitution ne donne pas de définition du pouvoir législatif, on ne sait pas ce que c'est.
Ouais.
Voilà. Bon. Donc là, il y a effectivement un gros problème. Alors, donc on a pointé ces deux points. Dans le préambule, je voudrais qu'on ait passé un petit peu rapidement, mais c'est important d'y revenir. Dans le préambule, ce qu'il faut retenir du préambule, c'est l'article 1er.
Ouais,
c'est la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. Alors, cet article 1er, on a déjà parlé un petit peu, mais ça fait une révision. Ouais. Est-ce que ça vous inspire une réflexion ou...
République sociale, je ne sais pas bien ce que c'est. C'est pas clair. Démocratique,
Social, ça veut dire quoi?
Alors, tout très, bien, quoi. Très bien, social, ça veut dire quoi? Voilà ce que j'attendais. Ouais. Mais alors, par contre, là, j'ai oublié votre prénom.
Jean-Noël.
Jean-Noël, alors là, vous m'avez dit quelque chose, je suis pas content. Vous m'avez dit démocratique, on voit à peu près ce que c'est.
Démocratie, oui, enfin on connaît la définition de mot démocratie, la démocratie, quoi.
Vous la connaissez, vous?
Mais il y a la démocratie directe,
la démocratie. Vous connaissez la définition du mot démocratie?
C'est le gouvernement du peuple.
Si on prend les racines grecques, oui, c'est ça, quoi.
Alors, je veux bien. Et nous avons l'article 1er de la Constitution, le préambule. Choses très importantes qui sont dites, on nous dit la France est une république démocratique. Est-ce qu'on ne pensait pas qu'il aurait été pertinent de donner une définition de la démocratie?
Oui, si. Non, mais je dis pas le contraire. Oui, alors on suppose que c'est expliqué par la Déclaration des droits de l'homme, enfin, puisque on se réfère à ça.
Il n'y a pas de définition de la démocratie. C'est exactement la même chose, c'est pour exécutif, législatif. Nous avons l'affirmation, alors là, l'exécutif et législatif ne sont pas cités. La démocratie est citée, on nous dit que la France est une démocratie. Et on ne nous donne pas de définition de la démocratie.
Effectivement, ça ne suffit pas de le dire.
Oui, parce que le gouvernement du peuple, comment il peut se...
Oui, non, mais on ne nous dit pas, on nous dit la France est une démocratie, et on ne nous dit pas ce que c'est qu'une démocratie. On ne nous donne pas la définition de la démocratie.
Oui, d'accord.
Donc c'est une lacune énorme.
Oui, c'est un mot de...
Donc en fait pour social, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une république sociale? On ne sait pas. Non. Alors, si on donne une définition, on dira, on peut ne pas être d'accord avec cette définition, mais on peut dire, c'est la définition qui est inscrite dans la Constitution.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Oui. C'est la définition qui est inscrite dans la Constitution. C'est comme ça que ça fonctionne en France, ça a été voté, il y a une légitimité pour dire que voilà ce que c'est qu'une république sociale. Ouais, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas contester ne pas être d'accord ou être d'accord avec quelque chose qui n'est pas défini.
C'est sûr.
Donc vous voyez que d'emblée, la Constitution... Pour l'instant, on n'est pas dans la critique, on est dans l'analyse des faits théologiques.
L'explication.
Voilà. Donc, on démarre déjà avec... Oui, cette constitution démarre avec trois handicaps, quatre handicaps extrêmement énormes. C'est qu'elle s'affirme. Alors, encore, on est gentil, on ne va pas discuter sur une république. La république, ce n'est pas défini. Enfin, bon, on va partir du principe qu'une république, c'est un système res publica, c'est un système d'organisation collective où on a le pouvoir qui est exercé par un ensemble de personnes et non pas par une personne seule. Voilà, c'est la différence. Donc on va accepter qu'il n'y ait pas de définition de la République, mais par contre, on n'accepte pas qu'on nous dise que c'est une République sociale. Alors les buts laïques, bon, on comprend,
peut-être définir le mot laïque.
Non, le laïque est défini par le dictionnaire.
Quand on entend des fois à la télévision, laïque,
anti-religieux,
tout ça.
Non, laïque, c'est pas anticlérical.
Non,
c'est différent. Laïque, ça veut dire que c'est le contraire d'une république culturelle.
C'est pas
cultuel. C'est-à-dire que l'autorité ecclésiastique n'a aucun pouvoir, que soit, et, totalement.
Que soit l'autorité des religions, quoi.
Ça voilà,
des religions, non pas à imposer par.
L'autorité, les instances culturelles ne participent pas à l'organisation de la République. Indivisible, bon, c'est affirmé l'unité. La République ne peut pas ne pas être divisée, sinon elle n'est plus d'accord, ça on comprend. Mais sociale, par contre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a bien une définition du dictionnaire du monde social, mais pas assez précise pour un emploi aussi, aussi important. Et la définition du modèle de démocratie, c'est pareil, elle est à géométrie variable. De toute façon, il aurait été souhaitable que sur des concepts aussi importants et énoncés en, temps, en article premier dans le préambule, on ait une définition de la démocratie. Donc, pour nous résumer, nous pouvons dire qu'il serait souhaitable de combler trois lacunes déjà au départ, sans préjuger du fond, on est sur la forme, qu'il y ait une définition de la démocratie, qu'il y ait une définition du pouvoir exécutif, et qu'il y ait une définition de pouvoir légitime. Voilà ce qu'on peut dire sur simplement la structure.
D'accord.
Un mot de la...
Oui, son organisation est décentralisée aussi.
C'est faux. Oui, alors ça on avait dit que ça, c'était pas clair.
C'est faux.
Non, mais c'est pas clair parce que son organisation est décentralisée. Alors, soit on est un État fédéral. Si nous sommes un État fédéral, on ne va pas expliquer ce que c'est qu'une fédération, c'est une. Nous avons l'Allemagne, nous avons les États-Unis comme exemple d'État fédéral avec des.
En Suisse.
Il y en a un.
Oui, voilà, avec des régions,
des régions
autonomes, pas totalement autonomes, mais extrêmement autonomes, et puis une superstructure fédérale qui fédère ces différents États. D'ailleurs, aux États-Unis, ces départements s'appellent les États.
Les grands pays, c'est ceux qui, s'ils veulent être républicains, c'est la seule chose qui convient, maintenant.
Ça, c'est un autre débat.
L'Inde. Il y a des États.
C'est fédéral.
Oui.
Ils ne sont pas fédérales. La Russie et la Chine. Dans les grands pays.
Oui. Bon, la France a une tradition centralisatrice.
Jacobine.
C'est un autre débat. C'est mieux d'être centralisé. Après, ça dépend effectivement aussi de la taille du pays. On ne va pas comparer un pays de 500 000 km² avec un pays comme les États-Unis. Les États-Unis, il y a 50 États. La France, le Texas, rien que le Texas, c'est 4 fois grand que la France. On ne peut pas comparer. Le débat qui consiste à considérer que le centralisme c'est pas bon, qu'il vaut mieux la décentralisation.
Quand je dis ça, je pense à l'Europe. Je vois même l'Europe des nations. Moi, je vois l'Europe fédérale.
C'est autre chose. Mais bon, pour revenir à la France, le fait de dire que l'organisation est décentralisée, ça ne veut pas dire grand-chose.
On ne le voit pas.
C'est autre chose de dire qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas, ça voudrait dire la Constitution dit qu'on est décentralisé et on ne voit pas qu'on est décentralisé. La question que je pose, c'est est-ce que ça veut dire quelque chose, l'organisation est décentralisée? Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut le définir. Il faut qu'on ait un titre de la décentralisation. Mais déjà, il y a déjà une première difficulté pareil, c'est presque une difficulté de logique sémantique. C'est-à-dire que dire qu'on est décentralisé, ça veut dire qu'on est décentralisé, qu'on décentralise, qu'est-ce que ça veut dire? Une organisation fédérale, c'est clair, c'est quelque chose de positif, je fabrique quelque chose de fédéral. Je suis décentralisé, ça veut dire que je me définis comme étant le contraire de quelque chose. Ça n'a pas de sens.
Non, ça
n'a
pas
de sens. Okay. Il aurait fallu dire... Je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, mais l'organisation est décentralisée. L'organisation est une organisation territoriale.
Ouais, c'est ça.
L'organisation de la France est une...
Mais bon, c'est vrai.
Décentralisée, ça ne veut rien dire.
Ouais.
On est bien d'accord. Bon, ça fait quand même déjà pas mal de carences d'entrée, quand on regarde la structure. Concernant le peuple, grand absent, est-ce qu'il est compris dans la souveraineté? Alors, on va le voir, puisque maintenant on va attaquer l'article, le titre premier, dénommé de la souveraineté. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Vous voyez à quoi on se heurte lorsqu'on analyse en profondeur un texte aussi important de la Constitution, c'est que il y a des mots extrêmement forts qui sont posés, qui ne sont pas définis, et donc qui ont des définitions présupposées.
La souveraineté dans une république, ça suppose que le peuple a son mot à dire, quoi.
Oui, non, mais alors le mot souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est la deuxième souveraineté. Alors, si on dit du président de la République, là on va comprendre. Hein. Alors, du président de la République, on comprend deux choses. C'est qu'on voit tout de suite ce que c'est que le président de la République. Et puis, en lisant le titre, on va s'apercevoir qu'on nous définit ce que c'est que le président de la République. Hein. Voici qui est président de la République, il est élu comme ça, il a voulu faire ça. Ça.
Bon,
de la souveraineté. On s'attend à ce qu'on nous définisse ce que c'est la souveraineté. Et là, on est très déçus parce qu'on ne nous définit pas. Et qu'on nous dit...
Si, il y a son principe.
Alors, oui. Alors, on va voir ce qu'il y a dans le titre de la souveraineté. La langue de la République est le français, l'emblème national est un pont tricolore, le bleu, blanc, rouge, l'hymne national est la Marseillaise, la devise est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, sans rentrer dans le commentaire et l'analyse de ça, est-ce que ça, c'est une définition de la souveraineté? Est-ce que ça éclaire notre lanterne pour mieux comprendre? La réponse est non.
On est d'accord. C'est très gaullien, ça. C'est emphatique.
Oui.
Pratique, gouvernement du peuple, par le peuple.
Oui.
À la télévision, ça passe très bien.
Oui, d'accord, mais est-ce que ça nous aide à définir ce que c'est que la souveraineté?
Je ne sais pas.
Parce que c'est un mot, qui n'est pas facile, la souveraineté. Donc, c'est un mot qui n'est pas courant dans notre vie de tous les jours, même dans l'espace d'une vie entière. Est-ce que vous avez souvent l'occasion d'employer le mot souveraineté?
Ben non, c'est pas souvent. Souverain. Alors.
Bon, alors que président de la République, vous l'employez souvent, oui, gouvernement, on l'emploie souvent, conseil constitutionnel, on peut l'employer, de temps en temps. Bon, mais souveraineté, c'est un mot qu'on n'emploie jamais.
Oui, c'est vrai.
Bon, alors. Donc, l'article 2 ne nous définit pas ce que c'est la souveraineté.
Alors, si, ça peut vouloir dire qu'on est maître chez soi, c'est-à-dire qu'on peut définir ce que c'est, par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous la coupe de...
Non, mais l'article 2, est-ce qu'il nous dit ça?
Non, il ne dit pas ça. Voilà. Mais bon, je cherche à...
Oui, non mais, alors, on va essayer... Oui, mais,
un pays souverain, c'est un pays qui n'est pas sous la coupe de l'autre, pour ça. Qui n'est pas dirigé par un pays extérieur.
Oui.
Enfin, le contraire de la souveraineté, c'est d'être
soumis. C'est la soumission. Mais alors, est-ce que c'est les articles qu'on valide ou définissent ça?
C'est pas marqué là.
Voilà.
Et indépendant.
Alors.
Oui, l'indépendance.
On va continuer. Parce que, oui, rien que sur ce titre premier, la souveraineté, c'est pour ça que j'ai prévu de faire la séance entière. Ça a l'air de rien. Mais on est dans un marécage total. Alors, article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, alors, qui l'exerce par ses représentants, par la voie du référendum. La souveraineté appartient au peuple. D'accord ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça appartient au peuple. Bon, on est bien content, ça va, on a la souveraineté. Mais qu'est-ce que c'est ? Parce que, vous voyez, ça paraît être du chipotage, mais ça n'en est pas la preuve. C'est que quand, Jean-Noël, vous avez cherché une définition de la souveraineté, vous avez dit, c'est le fait de ne pas être un esclavage, de ne pas être dominé, d'être indépendant. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça dont on parle. Oui, donc c'est, ça vous a parfait, trouvé. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus, mais alors, le suffrage peut être. Alors, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, la souveraineté.
Oui.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution, il est toujours universel, légal, secret. Son électeur, là, n'a toujours pas défini la souveraineté. Alors, on va revenir dessus, hein. Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, doivent respecter les principes de la souveraineté. Revoilà la souveraineté. les partis, on dit que les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. On ne sait pas ce que c'est que la souveraineté, on ne sait pas ce que c'est la démocratie, mais il faut qu'on respecte les principes de la souveraineté.
Oui,
la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Bref, ces quatre articles ne nous expliquent absolument pas ce que c'est que la souveraineté.
Oui.
Bon, donc là, il y a encore un problème. Alors, pour essayer de comprendre que c'est la souveraineté, puisqu'on ne l'explique pas, il faut qu'on déduise de tout ce qu'on va lire dans la Constitution, qu'on déduise la définition de la souveraineté. Et cette déduction, voilà ce que je vous propose, moi, comme
définition.
La souveraineté, c'est le pouvoir suprême. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême. Alors, le mot souveraineté a été, non pas prononcé la première fois, utilisé la première fois par Général Rousseau, mais c'est lui qui a étudié la notion de souveraineté le plus complètement, dans le contrat social. La souveraineté au départ, ça vient du mot souverain. Alors c'est bizarre, hein, parce que la démocratie, c'est un terme monarchique. Si on ne nous explique pas tout ça, donc souveraineté, ça vient de souverain. Donc ça vient du roi. Bon. La souveraineté, c'est le souverain. C'est moi, c'est l'État, c'est moi. Louis XIV, l'État, c'est moi. Je suis le souverain, je suis la souveraineté, je suis la nation, je suis la loi, je suis Dieu, je suis tout, c'est moi, je suis le souverain. Et sa souveraineté. Bon. Alors, il y a eu 1789, on a coupé la tête au roi, on a dit la monocratie, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on fait du mot souveraineté? Alors, Jean-Jacques Rousseau était venu à notre aide, il nous a dit la souveraineté, mais non, on a mis la monocratie à bas, la souveraineté c'est le peuple. Avant c'était le roi qui était l'émanation de Dieu, qui avait l'autorité absolue de faire n'importe quelle loi, d'élaborer n'importe quelle loi, ou de prendre n'importe quelle décision opérationnelle. C'est-à-dire, il faisait la loi, mais il faisait aussi, je dirais, l'aménagement du territoire. Il disait, je construis un pont ici, pour l'exécutif. Hein, il faisait l'exécutif, il fabriquait une loi. Il faisait l'exécutif, il fabriquait un pont. Mmh. Et puis, il faisait le judiciaire, il disait, toi, tu vas en prison.
Parce que j'ai lu que les tribunaux n'étaient pas si mal que ça sous l'ancien régime, dans la pratique.
Oui, mais c'était sous, sous l'autorité du. La lettre de cachet.
Oui, la lettre de cachet.
La lettre de cachet, bon, vous receviez Jean-Noël le matin dans votre boîte de cachet.
Oui,
Jean-Noël vous dirait la Bastille, signé le roi.
Oui, voilà.
Donc on avait ça. Alors après, il y avait effectivement des corps intermédiaires, parce que le roi voulait bien.
Hein,
alors, petite anecdote à propos de l'État, c'est moi. Louis XIV était à la chasse, il était d'ailleurs un ami de chasse, et puis on vient lui dire, son grand chambellan vient lui dire, sire, vous avez des gens, alors c'était les états généraux.
Ouais, les états généraux.
Vous avez les états généraux, c'est un corps intermédiaire que le roi avait accepté. Un aspect plus près des gens, etc. Donc, il avait admis qu'une petite assemblée comme ça, les états généraux, puisse se réunir puis discuter. Et alors, son grand chambellan vient lui dire, sire, je suis chargé évidemment d'être votre oreille auprès des états généraux, je viens vous voir, vous êtes en train de chasser le dinde, enfin bon, je me permets de vous déranger, parce que figurez-vous qu'aux états généraux, j'ai entendu dire, l'intérêt de l'État imposerait que. Première fois qu'on entend les gens des états généraux parler des intérêts de l'État. Quoi ? Bon. Louis XIV fait demi-tour à son cheval, il débarque dans les états généraux en habit de chasse, c'est même pas à changer, c'est même pas mieux de roi, qui dit, écoutez messieurs, il paraît que vous parlez de l'intérêt de l'État, qu'il y a des choses que vous pensez qu'on devrait faire pour l'intérêt de se faire de l'État. Mais messieurs, l'État c'est moi. Voilà l'histoire. Voilà. Bon. Donc, c'est le souverain. Voilà une anecdote qui illustre bien ce que c'est qu'un souverain. Et Jean-Jacques Rousseau, évidemment, dit, mais s'il n'y a plus de roi, on va garder quand même. Voilà, on va garder quand même la souveraineté. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de pense, c'est le pouvoir suprême. Bon,
ouais,
et le pouvoir suprême, c'est le peuple.
Ouais.
Le peuple est le souverain. On avait un roi, un homme seul, une personne, un individu, qui était le souverain, le pouvoir absolu, le pouvoir suprême. Et bien maintenant, on a le peuple. Le peuple, c'est le pouvoir absolu, c'est le pouvoir suprême, c'est le souverain. C'est ça. C'est ça la souveraineté.
Ça, on peut l'expliquer comme ça.
Ouais. Eh bien, la Constitution se devrait de nous expliquer ça. De nous expliquer que la souveraineté, c'est le pouvoir absolu. N'ayons pas peur des mots. Le peuple a le pouvoir absolu. Est-ce que ça vous choque de dire le peuple a le pouvoir absolu?
Mais absolu, ça va. Ça a une connotation très monarchique. Donc, c'est dans la
société. Ce qui est monarchique. Non, Jean-Noël. Ce qui est monarchique, c'est que ça ne soit qu'une seule personne qui a ce pouvoir.
Dictatorial.
Oui, mais là, c'est le pouvoir absolu du peuple Le peuple, c'est quoi? Ça fait quoi? Alors, la composition d'une multitude de personnes.
Alors, le peuple, c'est l'ensemble, tout simplement.
L'ensemble, oui.
Nous tous.
Oui, c'est donc, chacun a le pouvoir absolu, c'est.
Non, le peuple. Le peuple, en tant qu'entité, oui, le peuple. Ça. Alors, c'est un concept. Hein. Attention, c'est un concept, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'abstrait. Mmh. C'est pas concret comme ça, c'est un stabilo. Mmh,
bien sûr.
Le peuple, c'est un concept abstrait. Alors, c'est concret dans la mesure où c'est une addition d'individus, mais à partir du moment où on considère comme global, c'est abstrait. Et c'est d'autant plus abstrait qu'on dit qu'il a le pouvoir absolu. Alors, c'est pas choquant de dire le peuple a le pouvoir absolu. Parce que le pouvoir ne serait pas absolu s'il était partagé avec quelqu'un. Le roi ne partage pas son pouvoir, il a le pouvoir absolu. Bon. On n'est pas d'accord parce qu'on ne veut pas ce pouvoir absolu, c'est qu'une seule personne qui l'est. Mais on est bien d'accord qu'il y a quelque part un pouvoir absolu. Ou alors, il faut qu'on... Ou alors si vous n'êtes pas d'accord, il faut nous expliquer qu'est-ce qui va contrebalancer le pouvoir du peuple.
Ouais.
Vous voyez que c'est des choses qu'on ne parle jamais, ça.
Non, c'est vrai que je sais pas.
Le peuple a le pouvoir absolu. Parce que si on n'est pas d'accord avec cette affirmation, et on peut l'être, pourquoi pas, il va falloir qu'on nous explique avec qui le peuple... Alors, si ça vous choque de dire que le peuple a le pouvoir absolu, dites-nous avec qui le peuple doit-il composer son pouvoir. Avec qui est-ce qu'il doit le partager?
Dans le...
Avec
les
Grecs, avec les Martiens, avec les... Bon, oui. On est là justement pour...
C'est pas... C'est... Le pouvoir absolu, c'est une unité, et le peuple, les... c'est le peuple français,
C'est le mot. Alors, c'est le mot absolu qui vous. Alors voilà. C'est le mot absolu. C'est le mot absolu qui vous qui vous gêne. Absolu, ça veut dire sans partage.
Sans partage, oui, c'est ça.
Alors, il y a plusieurs notions absolu. Il y a total, c'est-à-dire illimité. Je peux tout faire. C'est absolu. Et puis, il y a l'idée que je ne le partage pas.
Vous avez raison, si, bon, alors, si on ne partage pas, ça veut dire qu'il y a... Si on partage, ça veut dire qu'il y a un partage, souvent, une autre partie.
Oui, les deux notions sont un petit peu distinctes. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien concevoir un pouvoir total, mais qui soit partagé.
Oui.
Le peuple, il a un pouvoir sans limite. Le pouvoir absolu, c'est le pouvoir absolu.
C'est-à-dire
que qu'est-ce qui limite le pouvoir du peuple? Rien. Parce que cette constitution, elle est écrite, elle est approuvée. Bon, si demain, il y a une autre constitution qui est élaborée d'une autre façon, qui va être soumise à un autre référendum, qui va être approuvée. Est-ce qu'il y a une instance qui va dire « Mais attendez, il y a quelque chose qui est écrit dans cette constitution qu'il ne faut pas écrire. »
Oui.
Est-ce qu'il y a une instance autre que les gens qui vont voter et qui vont dire « On est d'accord ou pas ?» Est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites d'écrire dans une constitution? Est-ce qu'il est interdit d'écrire certaines choses dans une constitution? Et alors, si c'est interdit, dites-moi quelle est l'instance qui l'interdit.
Oui, c'est ça.
Le pouvoir absolu, c'est après tout le pouvoir d'une collectivité de s'auto-déterminer, de se dire que nous allons, voilà, nous vivons ensemble, nous allons établir ces règles, nous n'avons aucune. On a des limites qui sont les limites que nous impose la nature. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire une loi contre le soleil,
ou
contre le vent. Bien que. Maintenant, on pense qu'on peut modifier. Bon, voilà. Alors, c'est ce que nous dit aussi Jean-Jacques Rousseau Lorsqu'il parle de l'état sauvage, avant que l'homme ne se sédentarise, on va dire avant la révolution néolithique, l'homme n'avait de contraintes, des limites, n'avait d'interdiction que les interdictions que lui donnait la nature. Après, il vivait en clan, il faisait la nature. À partir du moment où on se sédentarise, c'est là que commence l'organisation collective. Ouais. Et commence le besoin de dire. Le besoin, donc, de vivre ensemble et d'édicter des règles.
Oui, c'est ça. À partir du moment
mais on n'est pas limité. On peut mettre les règles qu'on veut dans la mesure où la majorité va être d'accord, ou la majorité qualifiée, ou le chef, c'est peu. Bon, la seule chose qu'on ne peut pas écrire dans une constitution, c'est des choses qui vont contre les lois naturelles. Dire la Terre va s'arrêter de tourner, ça on ne peut pas l'écrire.
Ouais.
Voilà. Donc, vous voyez où ça nous entraîne. Bon. Eh bien, la souveraineté, elle n'est pas définie.
C'est
ça. Ouais. Eh bien, la souveraineté, c'est effectivement ce qui manque dans la Constitution, c'est-à-dire le peuple. La première chose qu'on devrait dire, c'est cette Constitution, c'est le peuple est le souverain. Alors, il pourrait y avoir, pourquoi pas, un rappel historique en disant le souverain, avant la révolution de 1789, n'oublions pas que la fête nationale, c'est le 14 juillet 1789, que nous sommes aujourd'hui...
Ou 90, c'est la fête de la Fédération, un an après, 1789.
Oui, oui, mais la fête nationale, c'est le 14 juillet 1789. Donc, on est bien quand même sous l'égide de cette révolution de 1789.
Bien sûr.
Voilà. Et on aurait très bien pu écrire dans la Constitution, la souveraineté après, et d'ailleurs la déclaration des droits de l'homme, c'est la révolution de 89.
Bien sûr.
Après la révolution de 89 et la destitution de la monarchie, la souveraineté qui était jusqu'alors manipulée, détenue par une seule personne, a été récupérée ou transférée sur le peuple tout entier. Le peuple tout entier, et au soin, c'est lui qui a le pouvoir suprême. Bon, je pense que si on dit la souveraineté, c'est le peuple qui a le pouvoir suprême, personne ne va nous dire le contraire. Donc c'est bien ça.
Non, mais c'est vrai que c'est pas dit.
C'est bien ça. Eh bien, c'est pas dit. Voilà. Oui, mais alors le fait de le dire, on va voir qu'ensuite, ça éclaire quand même beaucoup de choses. Hein. Parce que c'est, si c'est pas dit, à mon avis, c'est volontairement que c'est pas dit. C'est parce que on veut pas que ça soit vraiment écrit noir sur blanc que c'est le peuple qui a le pouvoir suprême, parce que tout au long de la Constitution, ben, ça va être. Le pouvoir, c'est monsieur un tel qui l'a. Non, c'est tel instant. C'est,
oui, le fonctionnement.
Là, après, c'est pas le peuple. Au bout du compte, le peuple il n'a aucun pouvoir. Alors que si c'était inscrit. Non. Alors, il y a bien le principe gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Oui, ça c'est une formule qui est datée de la Révolution, ça. C'est une formule.
Non, je ne pense pas historiquement.
Non, je pense pas.
Non, je pense que c'est Thomas Jefferson qui. Ça vient de la Constitution américaine. Ou Lincoln. Lincoln ou Jefferson.
Ah,
qui a inventé cette formule.
Ah, d'accord. Enfin, ça n'est pas la même période.
Oui. Oui. Mais alors, ce principe, gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Ça sonne bien.
Eh bien, oui, mais il n'est pas un principe. Pas un principe, parce que qu'est-ce que c'est qu'un principe? Un principe, c'est une proposition claire et précise qui fonde un raisonnement et qui détermine des modes d'action. Et c'est un principe. Ça, c'est une phrase qui n'est pas claire, qui n'est pas précise. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Ça veut dire que c'est le peuple qui est le gouvernement qui est l'action du peuple, quoi, ça veut dire. Si je comprends bien. Si je lis bien.
Bon, déjà, gouvernement du peuple.
Oui, d'accord. C'est le par le peuple.
Alors, par le peuple,
on
ça peut laisser supposer que le gouvernement n'existe que parce que le peuple le veut bien. Et qu'à tout moment, le peuple peut faire et défaire le gouvernement.
Ouais.
Ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que c'est, le peuple ne fait pas, ne défait pas le gouvernement comme il veut.
Ouais,
donc il n'est pas par le peuple.
Ouais.
Voilà. Bon. Pour le peuple, alors ça, c'est un vœu pieux. Alors finalement, sur du, par et pour, il n'y a que par qui veut dire un peu quelque chose, et ce que veut dire ce par est contredit par toute la suite de la Constitution. Mmh. Gouvernement du peuple, bon, je pense que tout le monde sait que ça ne veut strictement rien dire, gouvernement du peuple. Et gouvernement pur le peuple, alors là, oui, ça veut dire quelque chose, mais c'est de la poésie. Hein, on va gouverner pour le peuple. Oui, bon, c'est comme quand on dit. Alors, c'est comme quand on dit à une femme, je t'aime. Bon, faut le prouver. Il faut prouver que tout ce que fait le gouvernement, c'est pour le peuple. C'est pas parce qu'on le dit. Non, mais je prends cette comparaison. C'est pas parce que tu me dis que tu m'aimes que c'est vrai. Ce sera vrai lorsque tu auras fait un certain nombre de choses. Et là, gouverner pour le peuple, c'est pas parce que c'est écrit que le gouvernement il gouverne pour le peuple que c'est vrai. Surtout si le peuple est très très mécontent en permanence de ce que fait le gouvernement. Bon, ça veut dire que le principe numéro 1, le principe de l'article 2, est violé en permanence à ce moment-là. Hein? Alors, un mot sur la devise liberté, égalité, fraternité. Là aussi, on manipule des principes extrêmement, extrêmement lourds, liberté, égalité, fraternité. C'est du lourd, hein.
Oui.
Bon. Et, encore une fois, on ne nous dit pas ce que c'est que la liberté, on ne nous dit pas ce que c'est que l'égalité, et on ne nous dit pas ce que c'est que la fraternité. Ce serait quand même la moindre...
La déclaration de droit de l'homme, je crois, c'est un peu expliqué, la liberté, ça s'arrête.
Oui.
Il me semble.
Alors justement, on l'a vu, et on a vu justement que les efforts que faisait la déclaration des droits d'homme et du citoyen dans au moins 3 ou 4 articles, hein, il y a le 4, le 10, le 11, enfin je cite de mémoire, qui fait des efforts pour définir ce que c'est que la liberté, eh bien, on n'est pas plus avancé à la fin, parce que il y a une définition. En gros, la déclaration, la DDHC nous dit que la liberté, c'est la loi qui va définir ce qu'on entend faire ou pas.
Donc c'est,
donc c'est pas un principe.
Ouais, c'est...
Oui, on va pas revenir dessus. Hein.
Non.
La liberté, c'est tout ce qu'on veut faire jusqu'au moment où on nuit à autrui. Et la nuisance, ça va être défini par la loi. La liberté d'expression, c'est de dire tout ce qu'on veut, sauf ce que la loi nous interdit de dire. La liberté d'opinion, c'est penser ce qu'on veut, sauf abuse, si on abuse de cette liberté. Et l'abus, ça va être déterminé par la loi. Voilà. Oui. Donc c'est... Si on est méchant, vous allez citer le foutage de gueule. Hein.
Mais... Je sais que c'est la tirade
de Figaro.
La tirade de Figaro dans... Figaro,
bon.
Et dans ce pays, on peut faire tout ce que ça. Peut tout faire si on dit ça, tout ça, ne pas dire ça, mais on peut tout faire.
Oui. On peut tout faire sauf l'énumération que je vais vous faire. Oui, mais là, c'est encore pire dans ce que dit la DDHC. C'est la DDHC nous dit qu'on peut tout faire sauf ce que, à tel moment, tellement d'atterre va décider pour pas faire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la visibilité. Alors voilà pour la liberté. Pour l'égalité, on nous la définit un petit peu. On nous dit c'est l'égalité de tous devant la loi. Bon. Alors, on ne peut pas dire que c'est pas écrit, c'est écrit. L'égalité, c'est l'égalité de tous devant la loi. Et alors, à ce moment-là, si vraiment l'égalité, c'est ça, c'est une restriction très importante de la liberté, de l'égalité. Ça vaut pas la peine pour les crimes sur les frontons des mairies, parce que l'égalité, ça doit être bien autre chose. Ça doit être l'égalité au final. Au final, tous les hommes soient égaux, notamment l'égalité du patrimoine, l'égalité des revenus, l'égalité des privilèges. Bon. Et ça, c'est pas du tout expliqué. Bon. Donc, vous voyez la lacune. Et la fraternité. Bah, la fraternité, elle n'est pas non plus très très peu. Alors, ne cherchons pas dans la Constitution de 58, il n'y a rien. On va revenir sur les textes annexes, notamment le préambule et la DDHC, qui nous parle un petit peu de solidarité. Notamment, c'est dans le préambule, je crois, la Constitution de 46, on dit que la solidarité doit être un... Bon, mais là encore, c'est un vœu pieux, c'est-à-dire qu'on ne nous explique pas quelles sont les règles de base de la solidarité. Bon. Donc, c'est plus de la poésie qu'un texte juridique. Ce serait un texte juridique si on avait un cahier des charges important sur la liberté, un cahier des charges important sur l'égalité et un cahier des charges important sur l'égalité. Vous voyez, on s'engage là-dessus, et d'ailleurs ça fait l'objet d'un titre, pourquoi pas. Voilà. Alors, un titre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces titres manquent. Quitte à reprendre, d'ailleurs, quitte à reprendre des éléments contenus dans la DDHC et dans le préambule de la Constitution de 46. Mais étant donné que c'est affirmé de façon aussi péremptoire en tant que devise de la République, la moindre des choses aurait été d'ajouter un titre de la liberté, un titre de l'égalité et un titre de la fraternité. Et on n'en est qu'à l'article 2. Non mais ensuite ça va beaucoup plus vite parce que c'est que de la cuisine, strictement intérêt. Le président de la République, s'il démissionne au bout de 3 semaines, il faut que le président. Bon, là c'est pas très intéressant. Alors, ensuite l'article 3. Alors l'article 3, c'est l'article qui fâche. Qui fâche parce que il est aujourd'hui au centre de la réflexion, de la contestation, à travers les Gilets jaunes, mais à travers aussi le débat, sur la place de la citoyenneté, la préservation de la citoyenneté, l'équilibre entre la citoyenneté et la représentation. Donc, la souveraineté nationale, cette phrase est très importante, appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, si on reprend la souveraineté, si on y met la définition, on dit, c'est le pouvoir suprême, voilà, le pouvoir suprême, appartient au peuple. Virgule. Le pouvoir suprême appartient au peuple, là je pense que c'est vraiment la traduction de la réalité, et puis tout le monde va être d'accord jusque-là. Le pouvoir suprême appartient au peuple. Bon. Qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, qui l'exerce? Ça veut dire que le peuple exerce le pouvoir suprême.
Par l'intermédiaire.
Comment? Alors, il l'exerce de deux façons. Par ses représentants et par la voie du référendum.
Sauf que par la voie du référendum, qui c'est qui décide du
référendum? Oui, on y vient. Mais déjà, avant, est-ce que cette formulation vous paraît claire? Qu'il exerce, donc le peuple exerce le pouvoir suprême par ses représentants et par la voie du référendum. Est-ce que ça veut dire
ses représentants qui sont ses représentants?
Délègue, ça il délègue pas sa souveraineté au représentant. Il délègue son pouvoir au représentant.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui...
Mais c'est le représentant, c'est... Qui est-ce?
Alors, à mon avis, est-ce que c'est pareil si on met « est » ou si on met « ou » si je dis... Le pouvoir suprême appartient au peuple. Alors, le peuple exerce le pouvoir suprême soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. Est-ce que c'est la même chose?
C'est faux, parce que est, c'est en même temps.
Non, mais le référendum, c'est pas.
C'est l'un ou l'autre.
Est-ce que c'est clair?
Non, c'est pas clair.
Voilà. Non, parce qu'on a l'impression qu'il y a une égalité entre les deux.
C'est ça la question. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça veut dire? J'exerce mon pouvoir par mes représentants et par la voie du référendum. Qu'est-ce que ça veut dire ce mais?
Oui, on a l'impression que le peuple veut choisir comment ça va se passer. Alors c'est pas vrai.
Ah non, mais attendez, que ce soit pas vrai, c'est autre chose. Mmh. C'est ce que c'est. Souvenez-vous, on a dit on fait clarté, précision, cohérence. Mmh. Bon. Là, pour l'instant, on est sur la clarté. Mmh. Cohérence, non, ça, c'est sûr que ça n'a pas de cohérence. Hein. Bon, mais est-ce que c'est clair déjà? Est-ce que de dire j'exerce ma souveraineté par mes représentants et par la voie du référendum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je fais les deux en même temps?
Cette impression qu'on peut faire à la... C'est pas l'un ou l'autre, mais d'un côté il est représentant et de l'autre côté il y a la voie du référendum.
C'est pas clair. Alors ce serait déjà plus clair si on disait l'exercice soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. Ça veut dire que moi, j'ai le choix, je sais ce que je veux. Soit je laisse faire mes représentants, soit je prends la main sur le référendum. Là, tout d'un coup, ça veut dire plus clair. Je l'exerce comme je veux. Si j'ai envie de laisser faire mes représentants, je les laisse faire. Si j'ai envie d'exercer moi-même, je fais mon référendum.
Le truc, il va pas là.
Non, mais ce que je veux vous dire, on marche par étapes.
Ouais.
Si on modifie, est-ce que déjà c'est plus clair? Alors, supposons que ça veuille dire ça. Bon, ça ferait poser la question au rédacteur, au législateur, est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire, c'est-à-dire que le peuple exerce soit par ses représentants, soit par la voie du référendum, selon son bon vouloir. S'il a envie de faire faire par les représentants, s'il a envie de faire un référendum, il fait un référendum. Est-ce que ça vous aide voulu
dire? Ça veut dire que les représentants, c'est la première chose.
Si il dit oui, là, on va dire qu'il y a un problème.
Oui, il y a un problème.
Ouais, parce que ça veut dire que le peuple déclenche un référendum chaque fois qu'il en a envie. Or, on va lire ensuite que c'est interdit, ça. Ça ne peut pas. C'est interdit par la Constitution. Donc, il y a un problème dans la rédaction de... Alors... C'est la raison pour laquelle le « est » peut-être, effectivement, le rédacteur va vous dire, le peuple exerce... il va vous dire, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que le peuple exerce son pouvoir absolu par ses représentants et par la voie du référendum. C'est-à-dire que c'est un tout. C'est un tout. Voilà.
C'est un tout, c'est ça.
Ouais. C'est un tout. C'est les représentants et la voix du référendum. Oui. Ça ne veut pas dire du tout que le peuple peut utiliser un référendum. C'est un tout. Voilà. Alors, il ne peut s'en sortir. Il ne peut s'en sortir quand vous voyez quand même que c'est extrêmement ambigu.
Oui, bien sûr.
Extrêmement ambigu.
Oui, bien sûr.
Ou alors, il aurait fallu, pour être clair, il aurait fallu qu'il dise. L'exerce par ses représentants qui peuvent eux-mêmes déclencher un référendum s'ils souhaitent que le peuple valide une de leurs décisions.
Oui, c'est ça.
Là, oui.
Oui.
Voilà.
C'est ça. Oui.
Voilà. Bon. Donc, il y a une imprécision, à mon avis, qui confine. Comment on dit lorsqu'il y a une. C'est un stratagème. C'est un stratagème.
Toujours la raison, c'est de mettre en évidence le référendum. C'est le souple là, dans la constitution, le référendum par rapport à la
constitution. Pour montrer que c'est le peuple, mais enfin.
Le référendum, c'est.
Comme vous dites, c'est un stratagème.
C'est quelque chose de mis en exergue.
Oui, mais le fait de le dire.
L'original,
le fait de le dire comme ça,
oui.
Par ses représentants et par la voix du référendum, c'est pour éviter de dire par ses représentants qui, s'ils le souhaitent, oui. Peuvent de temps en temps faire valider.
Je suis d'accord.
Bon. Et donc, de ce fait-là, on croit. Hein, c'est une mystification. Là, je cherchais le mot. C'est une mystification. On croit que. On exerce, soit que le peuple a le choix,
ouais,
et qu'il peut exercer, dire que le peuple peut exercer sa souveraineté par le référendum, c'est une mystification si le référendum ne peut pas être déclenché par quelqu'un d'autre que par le représentant.
Oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Ça a été fait volontairement.
Oui. Cette phrase, c'est vraiment une mauvaise action de la part de celui qui l'a écrite. Elle devrait être dénoncée non pas tellement pour son manque de clarté, mais pour son côté mystificateur. Alors, après il y a une phrase un peu étrange. Obscur. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
L'exercice de la souveraineté.
Oui, le pouvoir absolu.
Ça veut dire que les soviets n'ont pas le droit d'exister en France.
Alors, ça veut dire aucune section du peuple. Il y a deux choses. Il y a aucun individu. Aucun individu ne peut s'en
attribuer. Ça semble évident. Il n'y a pas ce qui était dit avant.
Oui, mais alors, vous voyez que si on avait défini, si on avait dit la souveraineté, la souveraineté appartient au peuple. Bon. Si elle appartient au peuple,
c'est normal qu'on prenne un individu.
Voilà.
Ouais, c'est antinomique.
Oui. C'est pas la peine. Alors, aucune section du peuple, bon, là. C'est pas la peine non plus de le dire, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être peut-être justifié de dire attention, je parle bien du peuple tout entier, et pas simplement 20% du peuple, une section ou telle classe sociale, voilà, bon, section du peuple, aucune section du peuple. Pourquoi pas dire, mais il aurait été plus simple de dire la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier. En tout cas, aucune section du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice, pourquoi pas, mais aucun individu, c'est vraiment pas la peine de le rappeler.
Alors, non, mais c'est un peu comique parce que on dit que appartient au peuple qu'il l'exerce par ses représentants. Si ses représentants, ils ne sont pas le reste, ils ne sont pas tous du même bord. Donc, on arrive bien à une section du peuple, c'est celui qui a la majorité, mais ce n'est pas le peuple entier.
Vous êtes trop méchante avec la Constitution. Là. Vous allez lui chercher les noises.
Non, mais c'est ça.
Je vais essayer de vous faire l'avocat de la Constitution par rapport à votre critique. Les représentants ne sont pas considérés comme une section du peuple. Lorsque. On parle de section du peuple, c'est une partie du peuple qui n'a pas été désignée par un processus électoral dont on va avoir ensuite le descriptif. C'est une section du peuple qui va s'arroger. Quand on parle de représentants, et bien évidemment qu'on parle des représentants qui sont désignés selon le processus qu'on va lire.
On va lire après.
Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce processus, mais en tout cas, il y a là une clarté qui n'est pas contestable sur le mode de désignation des représentants. Après, le fait que les représentants qui ne sont pas tous d'accord, c'est une section des représentants et qui ne peut absolument pas être confondue avec la section du peuple de la linéa, me semble-t-il. Alors ensuite, nous avons la phrase suivante. Le suffrage peut être direct ou indirect. Dans les conditions prévues par la Constitution, il est toujours universel, égal et secret. Alors, moi j'ai toujours trouvé que cette phrase était mal placée, venait comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on ne nous a pas encore parlé, Alors c'est vrai quand vous dites les représentants, ils arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais on ne nous a pas encore parlé du mode de désignation des représentants. On nous a parlé d'un référendum, là on vous parle de suffrage, direct ou indirect, il aurait fallu mettre le suffrage qui préside à la désignation des représentants, peut-être direct ou indirect, ça manque. Il faut savoir que cette constitution, qu'on décortique, elle a été écrite en deux temps, trois mouvements, 4-5 jours par Debré et De Gaulle, ils ont fait ça comme des...
C'est
moi. Oui. Je ne voulais pas le dire moi, mais je vous l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. C'est pas moi. Ça, comme c'est moi.
Ça ne gêne pas. Non, mais pour le moment, on peut le dire, on n'a pas une caméra.
Non, mais franchement, le support. Bon, ça vient comme un cheveu sur le. On ne sait pas de quoi il parle. Alors, c'est le suffrage peut-être direct. Le suffrage qui préside à l'élection des représentants dont on vient de parler à la lumière précédente. Prévu par la Constitution, il est toujours universel et secret, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs, pas grand chose à dire. Alors, l'article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Cette phrase vous inspire quelque chose ? Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Les partis et groupements, c'est pareil ?
Non, mais les partis politiques, on va dire quoi ?
Partis politiques et groupements politiques. Les partis politiques et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase ?
C'est mal écrit, l'expression du suffrage. Ça veut dire par là que les citoyens sont informés par les partis politiques de différentes opinions.
Oui, c'est vraiment mal écrit. Pour que vous disiez que vous comprenez ça, c'est vraiment effectivement une preuve que c'est mal écrit. Hein. Ça veut dire, parce qu'on nous parle des représentants.
Pas l'expression du suffrage.
On nous parle des représentants. On nous dit ensuite les représentants, ils sont élus. Alors, parce qu'on a intuité, les représentants sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions prévues, etc. Et là, on nous annonce les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est incroyablement mal écrit.
Pourquoi n'ont pas mis les partis politiques présents des candidats ?
Non. Ce qu'il faut nous dire, c'est que les représentants sont issus de partis et groupements politiques qui concourent à l'expression du suffrage. C'est pourtant simple à expliquer. C'est rédigé de façon absconce. Alors ça, je pense que c'est pas volontaire.
Non, c'est mal
fagoté. Bon, alors, les partis. Bon. Après, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire, pas grand-chose à reprocher à cette phrase. Alors, les partis se forment et exercent leur activité librement. Bon, ça, c'est important. Hein.
Ouais.
C'est important, les partis se forment librement. C'est-à-dire que n'importe qui peut former un parti politique.
Ouais,
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Alors là, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Ils ont osé mettre principe. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La souveraineté nationale n'est pas définie et il n'y a pas de principe.
Ouais.
On ne sait pas quels sont les principes de la souveraineté nationale.
Ouais.
Ou alors, il faut croire que le principe de la souveraineté nationale, c'est que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum qui est lui-même décidé par les représentants. Enfin, c'est réellement une plaisanterie. C'est réellement une plaisanterie. Et la démocratie, les principes. Alors, les principes de la démocratie, où sont-ils? On ne sait pas. Bon. Donc cette phrase est une plaisanterie. Alors, ensuite, ça commence à devenir intéressant. Les partis. Les partis contribuent à la mise en œuvre des principes énoncés au second alinéa. On se lèche les babines parce qu'il y a un principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
Alors, le second
alinéa de l'article 1er. L'article 1er, c'est l'article qui est dans le préambule.
Ouais.
Le second alinéa, c'est la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Donc, il contribue à la mise en œuvre du principe énoncé.
Il contribue, c'est le parti.
Oui, non, mais c'est incroyablement mal écrit. On ne peut pas dire que les partis contribuent à la mise en œuvre du principe. Le principe, c'est la loi. Là, on veut bien admettre que c'est un principe, la loi favorise l'égal accès des hommes, des femmes. C'est un principe. Les partis contribuent à la mise en œuvre du principe. Les partis contribuent à la mise en œuvre que l'accès soit égal aux femmes. C'est par les partis qui contribuent à ce que les hommes et les femmes aient libre accès aux élections.
C'est écrit dans la Constitution.
Ça ne veut strictement rien dire.
Ouais.
Ça ne veut strictement rien dire. Alors, par contre, j'attire votre attention, très fortement votre attention, sur l'alinéa 3 de l'article 4. L'alinéa 3 de l'article 4 est importantissime. C'est certainement l'un des articles les plus importants et les plus mal respectés de la Constitution. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation.
Donc ça veut dire que équitable, chaque parti devrait avoir le même nombre de députés, quoi.
Oui, proportion.
Non. Alors, attendez. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions. On parle des partis politiques, là.
Oui,
on ne parle pas de l'Assemblée nationale.
Oui, oui.
La loi garantit aux partis les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Il n'est pas question de l'Assemblée nationale. Là, il est question des partis politiques qui sont libres. On a bien compris, on a le droit de former un parti politique. La loi garantit des expressions pluralistes des opinions. C'est-à-dire que vous pouvez, la loi garantit, vous pouvez avoir n'importe quelle opinion que vous voulez. Votre parti, il peut proférer n'importe quelle opinion, la loi garantit. Et elle garantit la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. La vie démocratique, c'est tout simplement l'expression des partis.
Ça impose des temps d'antenne.
Voilà. Ça veut dire que la participation équitable des partis, équitable, ça veut dire que vous soyez, telle opinion, tel parti, que vous soyez gros, petit, équitable, c'est que vous soyez un grand parti ou un petit parti, vous devez avoir une visibilité identique. Alors, on n'a pas dans la Constitution, mais on a la loi sur le financement des partis. C'est-à-dire que les partis politiques, le financement des partis politiques, c'est quelque chose qui a fluctué, hein, pas mal, qui a fluctué pas mal en France, et puis qui est assez différencié selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, le financement des partis politiques n'est absolument pas pareil que ce qu'il est en France. En France, les partis politiques sont exclusivement financés par l'État. Vous pouvez voir.
Une condition.
Un petit peu.
Une condition d'avoir des représentants.
C'est avoir fait plus de 5%.
Parce que nous, on a fait partie d'un parti qui s'appelle nos citoyens, on a tout payé.
Oui, oui. Oui, oui. Alors justement. Donc, ça veut dire que l'article 3, alors vous faites bien de citer ce cas, l'article 3, l'alinéa 3 de l'article 3 n'est pas respecté dans ce cas-là. C'est-à-dire que si vous êtes un petit parti, que vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas de financement. Or, pour avoir des députés, il faut avoir des sous. Parce que vous avez eu un parti, moi aussi, vous avez été candidat aux élections, moi aussi, et pour postuler, par exemple, à l'élection législative, postuler à la députation, vous devez payer vos bulletins de vote, vous devez payer vos professions de foi, vous devez tout payer. Et si vous ne payez pas tout ça, vous n'avez strictement aucune chance d'être élu, notamment parce que vous n'avez aucune visibilité.
C'est
pas que vous existez.
Bon,
donc,
en région, ça coûtait 200 000 euros.
Donc, cet article est bafoué en permanence. La participation, la loi garantit la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation, c'est pas respecté, c'est bafoué, cet alinéa est foulé au pied régulièrement, il est contredit par le même taux des candidats que vous connaissez aux élections législatives, par les procédures, par le code électoral, et tout simplement les lois, les différents articles de loi sur le financement des partis politiques.
Le financement, et puis le temps de parole à radio autour. Un petit parti, on vous invite pas,
Et le temps de parole, exactement.
On n'est pas.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Alors ils disent qu'il y en a trop en France, c'est sûr que si ça faisait ça, on pourrait limiter ou... C'est-à-dire qu'il y a autant de Français, autant de partis en France.
Non, il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y a pas tant.
Vous vous rendez compte, quand vous faites de la politique, comme là on fait, on va dire de la politique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont intéressés.
Les gens, mais c'est pas la majorité, c'est sûr.
Oui, non, mais il n'y en a pas tant que ça. On vous dit, oh, mais si on laissait la parole à tout le monde sur les chaînes. Demandez aux gens de venir s'exprimer, demandez aux gens de venir débattre, qui est-ce que vous avez? Vous avez personne. Bon, seulement on vous fait peur avec ça, plutôt on entretient cette idée pour qu'il n'y ait qu'une dizaine de partis qui puissent s'exprimer, et on dit, mais oui, on était obligé de s'en tenir à 10, parce que sinon, mais ce serait une multitude, il y aurait des orateurs qui viendraient partout. C'est faux. Et de toute façon, que ce soit vrai ou que ce soit faux, si on écrit dans une constitution qu'il doit y avoir liberté de créer des partis, que les partis doivent, tous les partis doivent avoir.
Équitable,
c'est quel que soit, que vous soyez gros ou petit, ou alors il faut qu'on le précise. Voilà.
Il y a beaucoup de choses.
Voilà, alors c'est dans la souveraineté, vous voyez un petit peu le grain qu'il y a à moudre là-dedans. C'est. Il n'y a rien qui tient la route. Dans ce titre 1, que ce soit sur le fond et sur la forme. Sur la forme, on a vu que c'était déplorable à deux niveaux. Au niveau de la définition des mots et des principes, qui est totalement absente, et au niveau du rédactionnel, pour l'essentiel des alinéas, est extrêmement défectueux.
Les rédacteurs de cette constitution s'intéressaient à ce qu'il y avait après.
Oui, oui. Ah non, mais je pense qu'ils étaient... Ils se contentaient de phrases comme ça, à l'emporte-pièce, qui ne veulent pas dire grand-chose, en pensant que personne n'allait aller chercher la petite bête.
Il avait écrit un livre, il avait confisqué.
Non,
la démocratie confisquée.
Dans le coup d'État permanent.
Le coup d'État permanent.
Vous l'avez lu ce livre?
Non, je ne l'ai pas lu, mais
c'était un pamphlet contre la constitution de Besançon, quoi.
Oui. Enfin, bah, ce serait intéressant, peut-être, de le lire. Pourquoi? Parce que, bon, il faut savoir si c'est un pamphlet qui attaque De Gaulle à travers la... Parce que nous, peu importe quelque chose de vrai, de Gaulle, on regarde cet écrit et on la décortique en tant que... C'est pas personnel. C'est pas personnel, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il a. Voilà. C'est la rédaction telle qu'elle est, utilisée aujourd'hui par les présidents successifs, par les gouvernements successifs.
Ils s'en trouvent très bien.
Voilà, c'est tout.
Ils s'en trouvent très bien tous.
Oui, mais c'est bafoué, parce que par la voie du référendum, quand on a fait le référendum pour le traité de Lisbonne, les Français ont voté non.
Oui, j'ai un exemple.
Le gouvernement a signé. Normalement, il ne devait pas le signer.
Oui, t'as raison.
C'est...
Donc, même le référendum.
Donc là, la démocratie a été bafouée, quoi. Puisque la loi du référendum, c'est le gouvernement du peuple par son peuple. Après, on s'étonne qu'il y a des gilets jaunes. Moi, ça ne m'étonne pas. On est pour ou contre, mais qu'il y soit, ça est.
Alors, bon, titre 2, le... Alors, on a vu de la souveraineté en traduisant, d'après nous, de la souveraineté égale du peuple. On devrait avoir un titre qui nous explique ce que c'est que l'exécutif.
Ouais, ouais.
Un titre qui nous explique ce que c'est que le législatif. Et puis
la justice,
ça va arriver au titre 8 et au titre 9. Ensuite, on devrait avoir un titre qui nous explique ce que c'est que la démocratie. Enfin, ce que c'est. Quelle est la conception la conception de cette constitution? Quelle est la conception de la démocratie d'après cette constitution? Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on sache ce que c'est.
C'est vrai qu'un élève qui fait une rédaction, il y a un examen comme ça, il n'aura pas de mal à tous. Je me mets à la place du prof.
Parce que, supposons que, par rapport à cette affaire de la démocratie, supposons qu'on dise. La démocratie, bon, c'est vrai, elle n'est pas définie, on n'a pas une définition de la démocratie, on n'a pas, par exemple, un principe démocratique, mais on va considérer que c'est que la Constitution, c'est la démocratie. Si vous voulez la réponse à la question « qu'est-ce que c'est que la démocratie, quelle est sa définition ?», si vous voulez la réponse à la question « quels sont les principes de la démocratie ?», lisez la Constitution de 1958, et voilà, c'est ça. Attention, ça veut dire qu'on ne peut plus les modifier. Si on dit la Constitution de 58, notre Constitution, est démocratique, c'est la démocratie, et qu'elle définit la démocratie avec tous ses articles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de définition principielle de laquelle on va pouvoir déduire des articles, mais qu'au contraire, c'est une énumération d'articles qui va constituer la définition de la démocratie et qui va constituer le paradigme, le système principiel de la démocratie. Tu vois qu'on peut le modifier. Par exemple, là, il est question de modifier l'article 11 ou. Pour le modifier, c'est plus la démocratie alors, puisque la démocratie c'est. Hein, c'est le chat qui se mord la queue.
C'est pas possible parce que si on prend par exemple l'élection à deux tours ou à la proportionnelle, c'est deux systèmes différents. On est en train de parler de mettre la proportionnelle.
Oui, c'est pareil quand on a changé.
On change les règles.
Quand on a changé le mandat, quand Chirac a passé le mandat de 7 ans à 5 ans, bon. Eh ben alors, si la démocratie c'était la constitution telle qu'elle était, après on modifiait la constitution, c'est plus. On empiète sur la démocratie. Donc ça ne tient pas la route. Ouais. Alors, voilà. Donc, président de la République. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui me choque. D'entrée, c'est que la première article, ça devrait être le président de la République est le chef de l'exécutif. Oui, au moins, on n'a pas de définition d'exécutif. Oui, on pourrait au moins l'introduire là. Parce que le mot exécutif, vous allez voir qu'il est. Je crois bien qu'il n'est jamais prononcé dans la Constitution. Hein. Oui. Jamais, on ne sait pas ce que c'est. On a le président, et puis on a le gouvernement, puis on a le parlement. Bon. Alors, le président de la République veille au respect de la Constitution.
Alors là, moi, ça me choque. Ça me choque énormément.
Pourquoi ?
Ben, parce qu'il est juge et parti.
Alors.
Normalement, ça devrait pas être comme ça. Le Conseil constitutionnel.
Alors, bon, je vais me faire un petit peu le défenseur là, des conseils de temps en temps, il faut bien. Ce qui voudrait être dit là, avec cette phrase, c'est le président de la République est le garant de la Constitution. Pourquoi ? Alors, attendez, pour l'instant, je ne défends pas encore l'idée de mieux formuler. Parce que cette Constitution, voilà, c'est la clé de voûte. C'est quelque chose qui est très difficile à modifier, c'est la clé de voûte de tout notre système. Qui la protège ? Ouais, c'est une question. Qui la protège ?
C'est une démocratie, on sait comment ça se passe. Le Conseil constitutionnel, il y a la Cour suprême, il y a des.
Ah non, mais. Alors, voilà, je pose la question. Voilà, qui protège ?
Je pense moi.
Alors, ce que dit la Constitution, là. Donc, en tout cas, il y a deux choses. Il y a comprendre est-ce que c'est clair ce qu'elle dit, et puis si on est d'accord, c'est toujours différent. Bon. Elle dit ce qui protège. La Constitution, c'est le président de la République qui protège la Constitution. Oui,
ça, c'est clair, c'est sur le point de ça, bien sûr.
Est-ce que c'est clair ? Un président de la République, ça change tous les 5 ans. Oui. Alors comment est-ce qu'un gars qui change tous les 5 ans, il peut être garant d'une constitution qui est immuable ?
La constitution est au-dessus de lui. Elle est au-dessus.
Bon, et puis. Ah oui, mais alors.
C'est pas à lui de le faire, c'est au Conseil constitutionnel d'être garant de la constitution.
Moi, ce qui me choque, c'est que.
Est-ce que quelqu'un peut être garant de la constitution ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être garant de la Constitution ? Qu'est-ce que ça veut dire de veiller au respect de la Constitution ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire voir si on, par des actions, on ne va pas contre les principes. Par exemple, dans certains endroits, on ne prend pas les femmes ou d'autres les hommes, c'est de la alors qu'on est tous égaux. C'est une discrimination, si vous voulez. Donc, c'est contraire à la loi.
Oui, mais là, il y a la loi, il y a les tribunaux, il y a... C'est pas le président de la République qui va aller vérifier si toutes les lois sont conformes. Oui. De toute façon, les lois doivent être conformes à la Constitution, il y a un Conseil constitutionnel. il vérifie si la, si la loi est conforme. A priori, les lois ne se contredisent pas entre elles. C'est, quand on dit le président de la République veille au respect de la Constitution, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une phrase vide? Ça veut dire qu'il est garant. Alors, dire qu'il est garant de la Constitution, c'est le garant suprême.
Oui, parce que ça continue, il assure par son arbitrage.
Alors, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public ainsi que la continuité de l'État. C'est autre chose, ça.
Oui, c'est autre chose.
C'est autre chose. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Est-ce que ça a un sens?
Non, il applique.
Il se substitue pas au tribunal.
Non.
Moi, je pense que ça veut dire, c'est une espèce de concept. C'est-à-dire que il est le dernier rempart. Si la Constitution était, pas contestée, mais dans son ensemble, par, je sais pas, une insurrection, je pense que ça veut dire ça. Voilà, mais objectivement, ça ne veut pas dire grand-chose, quand même. Hein. Le président de la République veille au respect de la Constitution, puisqu'il y a tout le... il y a tout l'arsenal juridique, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, par contre, il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier du pouvoir public, ainsi que la continuité de l'État. Ça, ça me semble que ça veut... C'est beaucoup plus précis, parce que ça veut dire qu'il est garant du fonctionnement régulier du pouvoir public. Hein, voilà. Par exemple, quand un pouvoir public s'arrête, si vous avez... le métro, c'est un service public, oui, s'il s'arrête, bon, ben, c'est le président de la République qui est responsable. Oui, ouais, les décisions, c'est dit ça. Hein. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a... parce qu'on a fait deux réunions rien que sur les pouvoirs publics. On a beaucoup travaillé... Ah oui, alors là, ce qui manque, parce que ça, on l'a dit, la notion de service public, qui faisait partie d'ailleurs d'un des quatre thèmes du grand débat. Moi, j'ai animé 9 réunions de grand débat, j'ai beaucoup participé à cette activité. Et lorsque, dans toutes les réunions sur l'organisation d'État, l'organisation de l'État et des services publics, les participants ont remonté le fait que la notion de service public était une notion qui n'était absolument pas définie, nulle part. On ne sait pas, pour être clair, on ne sait pas ce que c'est qu'un service public. Il n'y a pas de charte du service public, il n'y a pas de loi du service public, il n'y a rien. Bon. Et que tout le monde a été d'accord pour dire qu'il serait urgent de mettre dans la Constitution à titre du service public. Le service public, qu'est-ce que c'est important, le service public? Je dirais presque que, alors je dis je me fais l'écho de tout ce que disaient les autres participants, si on est en organisation collective, si on a une constitution, si on a un gouvernement, si on juge qu'il est nécessaire de ne pas vivre de façon individualiste et de vivre en bande et en clan, mais qu'on veut avoir une organisation, c'est que on veut des services publics.
En harmonie.
C'est qu'on, oui, on veut. L'un des premiers bénéfices qu'on a à retirer de l'État, de la coercition, il y a des inconvénients, c'est qu'on a des services publics. Bon, et ces services publics ne sont pas définis, ils sont arbitraires, c'est des services publics un jour ou pas. Et donc, il manque, voilà, on peut ajouter encore des faits théologiques, il manque un titre des services publics. Et d'ailleurs, nous nous sommes amusés, entre guillemets, à rédiger une charte de service public, une dizaine d'articles, ce que c'est que le service public, ce que ça ne doit pas être, comment ça doit fonctionner, etc. Et donc, le président de la République est garant du service public. Parce que le service public, quelle que soit sa charte, quel que soit son énoncé d'article, il doit avoir un patron de service public. Et un patron, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il est responsable de la marche de son entreprise. Et donc, le patron, c'est le président de la République. Et l'un des critères du service public, c'est la continuité. Le service public qui est discontinu, c'est plus un service public.
Ouais,
c'est quelque chose sur lequel le citoyen doit pouvoir compter tous les jours, tout le temps, en tout cas pendant les périodes que le service public annonce qu'il va couvrir. Et s'il est en défaut par rapport à ce qu'il a annoncé en tant que prestation à rendre à l'usager, c'est le président de la République qui est responsable. C'est à lui de se débrouiller pour que ça marche. Donc ça a un sens. Ainsi que la continuité de l'État. Alors la continuité de l'État, là c'est, je pense, plus quelque chose qui fait penser à la défense de l'État vis-à-vis de la sédition, par exemple. Ouais. C'est comme l'État puisse continuer, qu'il n'y ait pas la disparition de l'État.
Oui,
l'État continue.
Oui, les estimeurs,
c'était toujours un peu.
Alors, il est garant de la dépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités. Il est garant de tout, finalement. Hein. Il est garant de tout. Mais ce qu'on comprend moins, c'est garant de la Constitution. On comprend bien qu'il soit garant de bon fonctionnement des services publics. Garant de la continuité de l'État. Hein. Pas de déliquescence, qui est toujours une continuité, qu'on ne soit pas sans ministre, etc. On comprend bien qu'il soit garant de l'indépendance nationale, garant de l'intégrité du territoire et du respect des traités, mais garant de la Constitution. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter ici.
Oui. C'est vrai que c'est bizarre. Hein.
Oui, mais c'est passionnant.
C'est vrai que quand on
tourne dans le film. Mais c'est terrible.
Je pensais pas que c'était comme ça.